Paul à Rennes. Le Clos des âmes. Chapitre 1. Ce qu'était le Clos. Du balcon de sa chambre à coucher, M. Sub voyait tout son clos. La vigne d'abord, très vieille et mal entretenue, mais qui produisait de si bons vins. Puis le réservoir et sa fontaine, un bout de pré, un carré de jardinage, et tout au bas, terminant le domaine et la pente, un champ de sainfoin bien nourri, où les premiers soleils de mai faisaient éclore chaque matin des milliers de fleurs violettes. J'oubliais, tout autour du clos, 16 piliers en grès rustique qui, portant des treilles autrefois, avaient dû former un agréable cloître de verdure et ne portaient plus maintenant que des lierres au lieu de souches, avec des grappes de petits grains noirs en place de raisins muscats. Jamais collégien, dans ses rêves d'école buissonnière, ne rêva clos plus clair, plus riant, plus magnifiquement embroussaillé, ni plus délicieusement inculte que le vieux clos de M. Sub. On l'appelait le clos des âmes. Mais ce nom, dont la physionomie énigmatique va produire sur vous, qui le rencontrez pour la première fois, je ne sais quelle vague impression de terreur superstitieuse et de mystère, ce nom de clos des âmes nous apparaissait à Cantperdry, joyeux, verdissant et fleuri. Nous disions clos des âmes sans savoir pourquoi, la valeur originelle du mot, sa vertu significative, s'étant depuis longtemps effacée, et, loin de garder un arrière-goût funéraire, ces trois syllabes n'évoquaient en nos cerveaux que souvenirs de raisins volés, de poires mangées sur l'arbre, de murs escaladés, de fossés franchis et d'évasions subtiles par un trou de haie au temps des cerises. Chapitre 2. Ce qu'était M. Sub. M. Sub, grâce à son clos, était, ce qui n'est pas peu dire, l'homme le plus heureux de Cantperdry, où il y a tant de gens heureux. Le plus peureux aussi. Mais dans nos villes de province, un peu de douce couardise n'est-il pas l'assaisonnement obligé de toute félicité bourgeoise? Cette brave bourgeoisie de France, qui fit un jour 89 et quelque peu aussi 93, en est demeurée toute tremblante. Or, M. Sub, bourgeois et fils de bourgeois, catholique pratiquant, ami de l'ordre quand même et respectueux envers le pouvoir établi, quel qu'il fût, mais dévoué au fond à la branche aînée pour des motifs qu'il ne s'expliqua jamais bien, M. Sub tremblait depuis sa naissance, naturellement, tel un peuplier d'Italie. Et le soir, au cercle, quand tous les autres peupliers frissonnants, tous les effarés de Cantperdry s'agitaient en groupe autour de lui, d'entendre les chuchotements et les confidences, Lyon en feu, Marseille en sang, les nouvelles terribles coulées dans l'oreille avec cette âpre volupté qu'éprouvent à exaspérer leur terreur les peureux dès qu'ils sont en nombre, d'entendre ce bruit confus de voix qui tenait du bruit du feuillage, quelqu'un eût dit positivement les bords de la Durance par un beau coup de mistral. Pour M. Sub, la République était une forme de gouvernement sous lequel les honnêtes gens cachent leur or en terre, et la belle aurore de 1848 ne lui rappelait, en fait d'impression personnelle, que deux journées particulièrement maussades qu'il passa au fond d'un grand tonneau. Ce tonneau s'émaillait, il est vrai, d'un superbe revêtement de tartre, violet comme une bague d'évêque, plus dur qu'un diamant et taillé à facettes, dont les curieuses cristallisations où dansait la lumière du soleil auraient réjoui l'œil d'un artiste. Par malheur, tout entier aux préoccupations de l'heure présente, M. Sub n'avait pu apprécier ceci qu'imparfaitement. Chapitre 3. Sub le blanc et Sub le rouge. Et cependant, le propre père de M. Sub, Sub le rouge, comme on l'appelait, avait, dans sa verte jeunesse, travaillé aux œuvres de la Révolution. Mais personne, à Cantperdry, ne se doutait plus de ces choses. Sub le Rouge, d'ailleurs, s'était repenti une fois riche. Les grandes guerres de l'Empire emportèrent et roulèrent bien des souvenirs. La Restauration, sur le peu qui restait, déposa sa couche de fin limon. Un grain de dévotion placé à propos, quelques alliances avec des hobereaux ruinés achevèrent de faire oublier le passé du vieil huissier révolutionnaire. Portant les boucles d'argent, le petit tricorne et la grande canne, ce vieillard apparaissait pur comme un lys et M. Sub, fils, croyait avec tout le monde que si M. son père avait été surnommé Sub le Rouge, c'était uniquement pour la couleur de ses cheveux, lesquels, très bruns jadis, étant à la fin de ses jours devenus d'une vénérable couleur blanche, rendaient plausible cette supposition. D'ailleurs, au moment où se passe cette histoire, depuis longtemps, Sub le Rouge était mort. Chapitre 4. Une vieille maison. À Canteperdry, les gens disaient « La maison Sub, vieille maison ». Il faut savoir qu'en province, une vieille maison, fût-elle achetée d'hier, projette toujours sur qui la possède certains reflets d'aristocratie. Chaumette lui-même ou Maximilien de Robespierre n'y habiteraient pas une vieille maison impunément. Au bout d'une semaine, Robespierre et Chaumette auraient le salut des Marguilliers. Or, le pieux monsieur Sub n'était pas Chaumette et le pavillon du Clos, en revanche, possédait au plus haut degré les caractères qui font révérer les vieilles maisons à Canteperdry. Petite porte basse à physionomie conventuelle, corridor sonore et de blanc crépi, où semblait errer encore un héros discret du pas des tourières, escalier étroit où le visiteur, à chaque palier, se colle le nez contre de rébarbatifs portraits de famille, grande chambre où se promènent tous les courants d'air d'avant 89, plancher briqueté, plafond à solive, haute cheminée, immense fenêtre garnie de microscopiques carreaux, et du haut en bas, à tous les étages, y compris la cave et le galetas, un fouillis d'anticailles et de vieux meubles. Fauteuils à pied droit, sofas à jambes torses, bahuts marquetés, des faïences, des tapisseries, tous les temps coudoyant tous les styles, un cadran rococo, un prie-dieu renaissance, une sphère en carton du temps des encyclopédistes, voilà certes plus qu'il n'en fallait pour qu'au regard de la société du lieu, la maison de M. Sub passa pour une des plus vieilles maisons de la bonne vieille bourgeoisie. Hélas, si on avait su que ces portraits, où le naïf orgueil du propriétaire aimait à reconnaître le sang des Sub, si on avait su qu'ils étaient en exil sur les murs, si on avait su que ces meubles vénérables, ces chenets de cuivre usés et polis par les bottes d'autrefois, ces fauteuils où se reconnaissait au creux de la tapisserie la trace du dos des ancêtres, si on avait su que toutes ces choses, ravies dans les châteaux ou disputées aux enchères des bandes noires, si on avait su que le Clos des âmes lui-même, habitation sacrilège bien que confortable. Mais, nous l'avons dit, personne à Canteperdry n'en savait rien, M. Sub fils, moins que tout autre, et c'est avec candeur qu'enseveli jusqu'à sa perruque dans un Voltaire en velours d'Utrecht provenant du dépeçage d'un château, M. Sub, parfois, tonnait de sa voix douce contre les révolutionnaires de 89 et les pillards de 93. Chacun applaudissait à ses sorties de M. Sub. Seul, discrètement, M. Thiers, l'archiviste paléographe, souriait. Mais qui a jamais prêté attention au discret sourire d'un ami? Cet ami fut-il archiviste paléographe? Chapitre 5. Musée Thiers et salle Sub. M. Thiers, on le devine, connaissait les mystères du Clos des âmes. Seulement, par amitié pour M. Sub, il n'en disait rien. Ce fut pourtant M. Thiers qui, sans le vouloir, causa la fin tragique de M. Sub. Voici comment. Un matin, en réfléchissant, M. Thiers s'aperçut que la ville de Canteperdry était sans musée et soudain, il s'arrêta à la pensée d'en fonder un. On l'appellerait le musée Thiers. Là, disait-il, seront déposés et classés dans leur instructive progression, avec le nom des donateurs en grosses lettres, les haches en silex et vieux celtes, les outils en cuivre gallo-romain, les médailles, les trépieds, les petits bronzes, les lampes phalliques ou non phalliques, les statuettes grecques, les fragments Moyen-Âge, les curiosités des 15e et 16e siècles, enfin, tous les précieux témoignages d'autrefois que la pioche du paysan fait jaillir chaque jour du sol cantoperdicien et qui, faute d'un lieu pour les recevoir, vont se dispersant entre des mains ignorantes. Ce projet de M. Thiers obtint le succès le plus vif. Le préfet s'y intéressa, le maire offrit un local. Chacun à Canteperdry tint à l'honneur d'y apporter quelques morceaux rares. Et M. Sub, entraîné par l'exemple, promit tout ce que renfermait de curieux le pavillon du Clos, à cette condition pourtant qu'une des vitrines du musée Thiers porterait le nom de salle Sub. Chapitre 6. Voyage de découverte. Jusqu'à ce jour, M. Sub n'avait pas vu sa maison. Sur les natures simples et dénuées de curiosité comme était la sienne, l'impression produite par les objets extérieurs, purement physiques, s'émousse par l'habitude. M. Sub possédait une fontaine sous son balcon et, sans être devenu sourd, depuis longtemps, il n'entendait plus sa fontaine. De même, il avait fini par vivre, sans les voir, au milieu des objets antiques, mystérieux et bizarres, dont le pavillon était encombré. Aussi, que de surprise l'attendait, cette âme candide et si longtemps endormie, dans le voyage de découverte, entrepris pour la plus grande gloire du musée Thierse autour d'une vieille maison. Que de remarques, que de doutes, que d'interrogations singulières. Pour la première fois de sa vie, M. Sub observa la fantasque diversité d'époques et de styles qui bigarrait son mobilier. Mais cette diversité même ne caractérisait-elle pas dignement un mobilier bourgeois, amassé pièce à pièce, conservé toujours et toujours accru par 10 générations de Sub? Certaines tentures trop étroites ne recouvraient pas exactement leur pan de mur. Plus court et plus long que les tringles, quelques rideaux n'étaient pas de mesure. M. Sub s'expliqua ceci en réfléchissant que tringles et rideaux pouvaient provenir d'héritage. Au dos armorié des fauteuils, sur les cachets de l'argenterie, M. Sub découvrait des chiffres et des blasons de 1000 sortes. M. Sub en conclut, non sans vanité, à d'innombrables alliances nobles dont le souvenir se serait perdu. En découvrant à ses portraits d'ancêtres certains airs de hauteur aimable chez les hommes et de grâce hautaine chez les femmes qu'il n'avait jamais vus dans son miroir lorsqu'il se rasait, ni sous la coiffe à canon de la tante Ursule, M. Sub s'avoua que, dans l'air empesté de l'incrédulité moderne, les vieilles races dégénéraient, et il prit texte de la chose pour maudire une fois de plus cette abominable révolution. Un fait pourtant troubla M. Sub. Ce fut de voir la bibliothèque personnelle de son père, du vénéré Sub le Rouge, bourrée jusqu'aux solives des plus infâmes productions du siècle dernier. Car il y avait là l'encyclopédie, le dictionnaire philosophique, les livres de Diderot, d'Helvétius, de Lamétrie, Dupuis et l'origine des cultes. Il y avait, le dirais-je, le compère Mathieu lui-même, à côté des ruines de Volnay, et sur la haute corniche, comme les génies du lieu, un Voltaire et un Rousseau en plâtre. M. Sub remuait tous ces objets d'une main désormais tremblante, et voyant s'enlever la fine poussière, amassée sur le nerf des reliures et la tranche rouge des livres, M. Sub, par je ne sais quel pressentiment, se sentait le cœur étreint d'angoisses inexprimables. Un remords s'éveillait en lui, remords étrange d'un crime qu'il ne se rappelait pas avoir commis. Tout à coup, d'entre les feuilles d'un zadig qui l'époussetait, un papier glisse et M. Sub, ayant déplié ce papier, tombe d'un bloc dans son fauteuil, effaré, la lèvre pendante, devinant plus qu'il ne lisait, s'essuyant de la main gauche ses yeux pleins de larmes, tandis que, dans la droite, le vieil acte couvert d'une ferme écriture et liseré de jaune sur les bords, s'agitait avec le frémissement d'ailes et le doux bruit que font les papillons de verre à soie quand ils grainent. Chapitre 7. Le sourire de M. Thierse. Alors M. Sub se rappela le sourire de M. Thierse, et ce sourire du paléographe, sourire doux, discret et compatissamment railleur, M. Sub croyait le voir partout. Aux têtes sculptées des consoles, aux petits culs nus des trumeaux, aux rosaces du plafond, aux plis grimaçants des rideaux, aux tapisseries, et tous ces sourires semblaient lui dire « Acquéreur de biens nationaux, spoliateur de la noblesse et du clergé, détenteur de l'argent des morts !» M. Sub, pour chercher une consolation, leva les yeux sur le portrait de son père. Hélas, la belle figure de Sub le Rouge, si calme d'ordinaire dans son ovale de poirier noir, la figure de Sub le Rouge elle-même souriait du sourire de M. Thierse. Or, voici ce qui la faisait sourire, voici ce qui remplissait de larmes les yeux du malheureux M. Sub le Blanc. Chapitre 8. Domaines nationaux. Extrait du registre des ventes. Vente numéro 342. Du troisième jour complémentaire, en trois de la République une et indivisible, nous, administrateurs du département, pour et au nom de la République et en vertu de la loi du 28 Ventose dernier, en présence du citoyen Trotabas, commissaire de la Convention nationale, avons, par ses présentes, vendu et délaissé dès maintenant et pour toujours aux citoyens Sub, à Narcasis, Eudor, dit Le Rouge, de la commune de Canteperdry, à ceux présents et acceptant pour lui et ses héritiers, le domaine national dont la désignation suit, Savoie, le Clodit des âmes ce purgatoire, ci-devant appartenant à la ci-devant confrérie des âmes du purgatoire, lequel clos de la contenance de 2500 cannes, confronte du levant le chemin, du midi les aires publiques, du couchant et du septentrion la rivière. Le dit clos est vendu, avec ses servitudes actives et passives, francs de dettes et redevances, notamment de tout entretien d'oratoire, de toute obligation de messe, prières, processions et autres pratiques superstitieuses, dont la République vendresse déclare l'acheteur pour toujours exempt et déchargé. Cette vente est faite aux dites conditions, moyennant la somme de 6065 francs, calculée conformément à l'article 5 de la loi du 28 Nivose dernier, Savoie, 2000 livres en numéraire et 4065 livres, valeur fixe en mandat et assignat à 30 capitaux pour un. Signé, Sub, Eudor Anarchasis, Trotabas, commissaire, etc., etc. Chapitre 9. Le chant de Saint-Foin. Clos dit des âmes ce purgatoire, se répétait avec terreur le pieux et infortuné monsieur Sub, tandis qu'au cercle, les fondateurs du musée, réunis en commission préparatoire, n'attendaient que lui pour inaugurer leurs travaux. On avait ouvert la séance à midi. Sub est bien long avec ses anticailles, murmura le secrétaire lorsqu'il entendit sonner une heure. À 2h10, M. Tirse perdit patience et prenant son chapeau et sa canne, il se dirigea vers le clos. Arrivé devant la porte du pavillon, M. Tirse, vaguement inquiet, souleva le heurtoir représentant un dauphin de bronze qui se cognait la tête sur un gros clou. Le heurtoir retomba, le dauphin se cogna la tête, un bruit formidable roula un instant, puis mourut dans les profondeurs du corridor, mais personne ne répondit. Bien que discret naturellement, M. Tirse prit sur lui de presser le loquet et de pousser la porte. Personne encore. M. Tirse monte au premier étage. Salon grand ouvert, livres bouleversés, meubles en désordre, et sur le parquet, devant le fauteuil, à côté de la calotte de M. Sub, un vieux papier, l'acte fatal, tragiquement froissé et mouillé de larmes. M. Tirse devina. Sans réfléchir aux sentiments religieux de son ami Sub, d'abord il crut à un suicide. L'air lui manquant à cette pensée, il se dirigea vers le balcon. Oh, surprise, bonheur ! Là-bas, tout au bout du clos, dans le petit champ de Saint-Foin, M. Sub allait et venait. M. Tirse s'appuya au mur et respira. Pourtant, la première joie passée, « Que diantre, se dit-il, fait mon ami Sub à cette heure, gesticulant ainsi au milieu d'un champ de Saint-Foin. Hey, »« Hé, Sub ! Sub ! Monsieur Sub !» À cet appel, les lierres du clos s'agitèrent, un moineau qui buvait à la fontaine s'envola, mais ni Sub ni Monsieur Sub ne répondirent. Alors Monsieur Tirse descendit au clos où Monsieur Sub se promenait toujours. Arrivé à quatre pas de M. Sub, M. Tirse s'arrêta dans le Saint-Foin. « Bien le bonjour, Sub, » dit-il. Sub regarda son ami, mais n'eut pas l'air de le reconnaître. Interloqué, M. Tirse s'inclina. Puis, saisissant son feutre gris par le haut de la forme, il le souleva perpendiculairement au-dessus de sa tête, de toute la longueur du bras, et le laissa retomber en place, d'après les lois ordinaires de la pesanteur. C'était là sa manière de saluer. M. Sub, hélas, resta insensible à cette politesse. Tête nue au soleil et sans plus regarder M. Tirse, M. Sub foulait à grands pas son Saint-Foin. Brindilles vertes et fleurs violettes s'écartaient à chaque enjambée et, chaque fois, une nuée d'abeilles en colère, jaunes de pollen, ivres de miel et de lumière, s'enlevaient et tourbillonnaient autour de la tête de l'importun. Et M. Sub soupirait. « Va des rétros ! Va des rétros ! Les entendez-vous qui bourdonnent ? Elles me réclament leur clos. Ce sont les âmes du purgatoire. » M. Thyrse pleura sur son ami. D'un coup de soleil printanier et compliqué de monomanie religieuse, le propriétaire du clos des âmes, M. Sub, était devenu fou.